Witte vum Dach beim Maurice Molitor as loden François Aisbourg. Hien schwätzt Franzéisch, huet nief der Franzéscher woch die Lëtzebuer Nationalitéit. Sein Pap wo nämlich Lëtzebuer Diplomat. Den François Aisbourg gëllt als e vun den renomméiertsten Experten an geopolitischen an geostrategische Froen an Europa.
Monsieur Aisbourg, bonjour.
Bonjour.
Luxembourgeois de naissance, puis français, aujourd'hui franco-luxembourgeois grâce à la double nationalité. Est-ce que vous restez attaché au pays de votre père, même si vous n'y avez jamais vécu ?
D'abord, si, j'ai vécu. Pendant les premières années de ma vie, j'ai commencé l'école ici et j'ai quitté le pays à l'âge de 9 ans. Alors, c'est insuffisant pour avoir conservé mon Lotzebusch, mais c'est plus que suffisant pour conserver l'attachement.
Mais vous êtes avant tout français quand même.
Ah, ma vie professionnelle a été placée sous le signe de la France. Ça, c'est évident. Mais vous savez, quand on travaille sur les relations internationales, comme je le fais depuis presque toujours, le fait d'avoir le point de vue, entre guillemets, du petit pays est quelque chose d'infiniment précieux que je me félicite tous les jours d'avoir, pas simplement en termes sentimentaux, mais aussi parce que professionnellement, c'est quelque chose de très précieux.
Mais en tout cas, en tant que Français, vous compreniez très bien l'effet qu'a fait à la France et aux Français l'annonce d'une alliance militaire entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, synonyme de mise à l'écart de la grande nation. C'est cette mise à l'écart qui blesse, n'est-ce pas, bien plus que la rupture ou l'annulation d'un gros contrat de sous-marin.
Vous avez raison, mais c'est encore pire que ça. C'est non seulement la mise à l'écart, mais c'est la manière de la mise à l'écart. Et si les Australiens, les Américains et les Britanniques étaient venus en disant aux Français, écoutez, on est en train, nous, de bâtir quelque chose de plus étroit que ce qui a existé jusqu'à présent, est-ce que ça vous intéresse d'en être ? Les Français, je ne sais pas ce qu'ils auraient répondu. S'ils auraient répondu oui ou non. Mais la question ne leur a jamais été posée parce que dès le départ, les trois pays ont décidé de faire ça littéralement en cachette. Pendant 6 mois, ils ont négocié sous le sceau du secret. Le secret a été plutôt bien préservé. Et pour égarer les Français, ils ne se sont pas contentés d'appliquer le secret, mais en plus de raconter des mensonges. Ce qui, dans la vie internationale, est comme dans la vie tout court, est généralement pas très bien vécu lorsque le Premier ministre australien co-signe le compte-rendu franco-australien sur la coopération entre les deux pays le 30 août dernier. Compte-rendu dans lequel Australiens et Français disaient « Ah, ça va très très bien, on va que faire, on fait des tas de choses formidables ensemble, les sous-marins, bravo, on continue !» Alors que ça la faisait déjà près de 6 mois qu'ils étaient en train de nous faire, comme on dit trivialement, un enfant dans le dos. Ça, c'est quelque chose qui est, quelle que soit la taille du pays, quelque chose d'absolument impardonnable. Et ça va laisser des traces très profondes en termes de relations franco-américaines, franco-australiennes. Bon, dans le domaine franco-britannique, c'est un peu différent parce qu'avec le Brexit, personne n'est surpris de quoi que ce soit du côté des Britanniques. Plus c'est désagréable, plus on s'y attend.
Mais dans le contexte que vous venez de décrire, est-ce que la décision de la France de rappeler ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie, ce qui est une décision grave qu'on n'a pas l'habitude de prendre vis-à-vis de pays amis, est-ce qu'elle vous semble justifiée ou est-ce qu'elle était quand même un peu démesurée ?
Alors la question n'est pas de savoir si elle est justifiée ou pas, parce qu'en fait elle est justifiée. Hein, je veux dire, mais la question est de savoir si c'est une décision intelligente. Et là, je dois dire que j'ai des réserves qui sont très pragmatiques, à savoir que lorsque on rappelle un ambassadeur, il va falloir se poser éventuellement la question du retour. Et si le retour se fait, comme il se fera inévitablement, sans que la situation n'ait été modifiée dans un sens clairement positif pour les Français, ça apparaîtra comme étant une perte de face et un recul pour les Français. Donc ce n'est pas cette approche-là qui me paraît être la plus intelligente pour exprimer la colère.
La France, en tout cas, est profondément vexée. Lundi, finalement, l'Union européenne s'est déclarée solidaire. Est-ce que les Américains ont sous-estimé la réaction européenne ou l'ont-ils volontairement prise en compte ?
Le problème, c'est que, avec le secret qui a entouré cette affaire, la plus grande partie de la bureaucratie politique américaine a été elle-même tenue à l'écart de cette affaire. Pour autant qu'on le sache, cette négociation s'est déroulée avec les spécialistes des problèmes de la région Indo-Pacifique, les spécialistes des rapports de force militaire dans la région, etc. Mais les Américains responsables des relations transatlantiques ont eux-mêmes été tenus à l'écart. Alors évidemment, l'affaire est très grave, non seulement parce que il y a eu tout ce que je viens d'évoquer sur le secret, le mensonge et ainsi de suite, mais aussi parce que le président Biden explique depuis des mois et des mois qu'il veut bâtir une coopération entre les Américains et les démocraties, notamment européennes, dont l'Union européenne bien entendu, face à la Chine. Ça, et je considère qu'ils ont raison de vouloir faire ça. Ben, le problème, c'est qu'après ça, il va quand même être très, très difficile, pas simplement de convaincre les Français, parce qu'évidemment, il existe aujourd'hui zéro confiance du côté français dans les engagements que pourraient prendre ou ne pas prendre les Américains, sans parler des Britanniques et des Australiens. Mais le problème, c'est que pour beaucoup de pays de l'Union européenne, ce que Biden souhaite, c'est-à-dire une ligne plus dure vis-à-vis de la Chine et une coordination, est quelque chose qui déplaît profondément. Les gens qui vendent des voitures allemandes en Chine, ils n'ont vraiment pas envie de ça. Et donc, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas donner suite aux demandes américaines. Alors là, ce n'est pas la colère qui est un problème, c'est l'inertie. Je pense qu'il y a beaucoup d'États membres de l'Union qui vont prendre argument de ce qui vient de se passer pour dire « Oh là 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 là, ces histoires indo-pacifiques, c'est un sac à embrouille. Regardez ce qui vient d'arriver aux Français. Est-ce bien raisonnable de suivre les Américains qui partent en catastrophe de l'Afghanistan un jour et qui bafouent un État membre important de l'Union européenne un autre? Dans ces conditions, restons en arrière de toute cette affaire et continuons de prétendre faire du Wandel durch Handel, sachant que pour l'instant, ce ne sont pas tellement les Chinois qui sont vandelés, si j'ose dire, ce sont plutôt les Allemands qui subissent l'influence chinoise.
Donc ce serait ça la mauvaise décision, mauvais choix.
Ce serait ça la mauvaise décision.
Et quelle devrait être la réaction de l'Europe ?
D'abord la réaction de l'Europe initiale. Moi, je n'ai aucun problème. Madame von der Leyen s'est très bien exprimée. Il y a des gens qui disent oh, il aurait pu s'exprimer plus tôt, etc. C'est pas absolument évident. D'abord, il y a 27 États membres, il faut un petit peu de temps pour se concerter, c'est normal. Mais j'ajouterais aussi que ce n'est pas forcément une mauvaise idée de réfléchir. Emmanuel Macron ne s'est pas encore exprimé sur le fond. Je pense d'ailleurs que le moment où il s'exprimera sur le fond, de façon un peu détaillée, ça risque d'être très dur. Mais il ne réagit pas à son niveau, à brûle pour point, et sous l'empire d'une colère non maîtrisée.
Un entretien, d'ailleurs, avec le président Biden est prévu courant de cette semaine.
Oui, au téléphone, oui. Moi, je n'entends rien de cette conversation téléphonique. Et la confiance n'étant pas là, et c'est probablement trop tôt pour imaginer qu'il puisse y avoir une gestion conjointe de la sortie de cette crise.
Au plus tard, la semaine dernière, je pense que tout le monde a compris que les temps ont changé, que le nouveau monde est bipolaire entre les États-Unis et la Chine, que l'Europe ne compte plus, ou de moins en moins. Peut-être que certains de nos auditeurs se disent « Mais en quoi est-ce que tout ça nous concerne, nous, modestes petits luxembourgeois ?» Concrètement, quelle est votre réponse ?
J'allais dire, les Luxembourgeois sont peut-être encore plus impactés que des États plus importants. Pourquoi ? Parce que le Luxembourg vit quand même très largement des fonctions de place financière. Et il suffit de se promener dans le centre-ville pour voir combien sont présentes les entreprises bancaires chinoises. Et il suffit de voir la cohabitation dans un même immeuble au Kirchberg de Huawei et d'un côté et de l'américain Amazon de l'autre pour se rendre à quel point le Luxembourg est dépendant, bien sûr, de la mondialisation en général, de la mondialisation aux couleurs de la Chine ensuite, et vulnérable à la tension entre les États-Unis et la Chine de l'autre. On n'est plus à l'époque de la mondialisation politiquement neutre, géopolitiquement neutre. On est entré dans une période, et ça a été aggravé par la pandémie, où on a désormais, vous parliez de monde bipolaire, on a aussi une mondialisation qui est en train de devenir bipolaire. Mais quand vous avez ça, il y a des choix compliqués qui sont imposés aux États tiers. Prenez l'affaire de la 5G. La 5G, vous savez, qui permet de faire fonctionner l'économie numérique, dont on connaît désormais le caractère absolument crucial dans la vie quotidienne. Là encore, la Covid a beaucoup accéléré le mouvement. Mais dans l'affaire de la 5G, les Américains sont arrivés en disant à tel ou tel pays, écoutez, si vous ouvrez les portes à Huawei, vous allez avoir un problème avec les États-Unis. Et les Chinois, de leur côté, disaient « Ah, si vous n'ouvrez pas les portes à Huawei, ah, chers amis allemands, par exemple, vous pouvez toujours aller vous rhabiller en ce qui concerne les ventes de vos belles voitures de Stuttgart. »
Donc il faudra choisir son camp.
On est obligé, bien entendu. C'est une... si vous dites qu'il y a un monde bipolaire, et vous avez raison, s'il est bipolaire, il va falloir choisir. Et les petits pays, plus dépendants que d'autres par rapport à la mondialisation, surtout s'ils sont spécialisés dans des fonctions de place financière et de fintech, oui, ça va être très rude. Les gens qui s'imaginent qu'il va être possible de travailler de façon neutre entre ces deux pôles, ceux-là se trompent. Et pour le Grand-Duché, ça sera un sérieux problème dans les décennies qui viennent. Ce n'est pas une affaire de 6 mois, c'est une affaire d'années et de décennies.
Mais ça ira jusqu'à quel point ? Est-ce qu'il faudra tôt ou tard peut-être refuser l'accès d'entreprises, de certaines entreprises chinoises au marché luxembourgeois, européen ?
C'est ce qui va se passer, forcément. Et c'est ce qu'on a vu avec la 5G. Vous prenez les Britanniques. En 2019, les Britanniques avaient conclu avec Huawei. Puis les Américains sont arrivés en disant « Écoutez les gars, on a nos merveilleux accords dits Five Eyes entre nous. Si vous laissez le loup Huawei entrer dans la bergerie, et il vous en cuira. » Un an plus tard, le Royaume-Uni avait sorti Huawei du jeu. Alors, dans les pays membres de l'Union, ça a été généralement un petit peu plus subtil, mais le fait est que la place qui va être faite aux Chinois dans la 5G dans de nombreux pays, comme la France, l'Allemagne, et ainsi de suite, ne sera pas celle que pouvait espérer la Chine il y a 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est des affaires très, très, très concrètes. Et le monde d'hier, sur lequel repose la prospérité du Luxembourg, il est en train de disparaître. Encore une fois, ça prend du temps, il y a une certaine inertie dans le système, mais il faut se préparer à ces temps-là. C'est quelque chose, il va falloir y songer.
Est-ce que c'est de ce genre de guerre que parle votre livre qui va paraître dans 15 jours, intitulé justement « Le retour de la guerre » ou « De vraie guerre »
J'attends que le livre soit paru pour en parler plus à fond.
Mais on en a fait quand même déjà un tout petit peu la promo.
Un tout petit peu. On va soulever quand même un coin du voile. Et il s'agit là, pour le coup, davantage de la vraie guerre. Mais quand je dis la vraie guerre, ce n'est pas forcément la guerre qui tue, mais c'est en grande partie la cyberguerre. Et là, j'en profite pour faire une incidente. Et la place de Luxembourg dépend pour son fonctionnement, pour la crédibilité de ses services, sur une grande robustesse des circuits de la mondialisation qui, à leur tour, dépendent, bien sûr, de la qualité des défenses cybernétiques au Grand-Duché. Moi, je n'ai pas de raison de penser que les Luxembourgeois soient mauvais dans le domaine, mais il va falloir s'y intéresser, là aussi, beaucoup plus dans le passé, parce que la guerre cybernétique, c'est désormais tous les jours. Alors, les gens n'en meurent pas, du moins pas jusqu'à présent, mais le fait est qu'il s'agisse des Américains, des Chinois, des Russes, parfois des Européens, hein, y a pas mal de joueurs, hein, dans cette affaire, s'attaquer à des infrastructures critiques, qu'elles soient liées aux services publics, qu'elles soient liées au fonctionnement des entreprises ou à la circuiterie financière et monétaire, c'est un champ de bataille qui, avec la bipolarisation qu'on évoquait, va devenir beaucoup plus violent qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et là, il est important, là aussi, de se préparer.
Monsieur Heisbourg, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Den Sicherheitsakkord zwischen Australien, Großbritannien und den USA möchte EU suchen, wie soll darauf von europäischer Seite reagiert gehen, darauf kommen wir hin um 20:08 an der Rubrik Europa aktuell nach einer Zeit zurück.